remercie au pasteur Matthieu d'être avec nous présent pour apporter cette étude qui est déjà la cinquième étude sur l'Apocalypse. Et nous continuons le mot des chapitres, nous le chapitre 5, aujourd'hui, sur l'Apocalypse. Donc, j'aimerais qu'on oublie quelquefois de dire, mais lisez les chapitres qu'on peut lire en mesure, ceux qui vont être édifiés à l'église, c'est bien de les lire chez soi, quand on est plus au courant de, et on parle des nuits, on fait des choses ça, on comprend beaucoup mieux la parole qui est avancée du fait qu'on a vu et de croire encore mieux. Voilà. Alors, donc les études, la prochaine étude se fera le 26 juin, ce sera la dernière étude de l'année académique. Ça reprendra fin août, en juillet il n'y en aura pas. Et puis on ira jusque fin d'année, comme ça, sauf en mars décembre. Voilà. Donc pour ceux qui ont le désir d'avoir les enseignements audio, il y a moyen d'acheter des clés à 6 euros. Tous les enseignements ne sont pas offerts. Si vous voulez vous demander, c'est un peu comme on est montré. Nous avons été encouragés pour aller apporter cette bonne nouvelle. Bien sûr qu'il y a des mauvaises nouvelles, mais nous voulons que ce soit des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles pour toutes les personnes qui se trouvent là. Venez le célébrer son grand amour, venez le chanter, le Christ qui est venu donner la vie.
Seigneur Jésus, nous te célébrer, Seigneur. Nous te rappeler, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que c'est celui qui nous accueille. Frère, nous en avons tellement besoin. Nous voulons te prier vraiment sur tous les touchés dans le cœur, Seigneur, aujourd'hui. Nous enseigner davantage, nous apprendre plus de toi, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur. Nous voulons vraiment recevoir ta parole de toi, Seigneur. Quand tu t'y sentais, Seigneur, quand tu le sentais, Seigneur,
qui est la fin de toute chose. Merci parce que tu es éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es avant l'histoire, tu es après l'histoire. Tu tiens tout entre tes mains, Seigneur, et nous voulons réaliser pleinement que le Dieu souverain qui tient tout entre tes mains, qui tient l'histoire des hommes. Les hommes qui sont quelquefois très orgueilleux et qui croient pouvoir se passer de moi. C'est vrai que le jour viendra où tu reviendras chercher ton église, et un jour aussi, c'est vrai, tu mettras fin. Il y aura les jugements, les trônes qui seront, le trône du jugement qui sera établi. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses sauver le grand nombre. Ce que nous aimons, c'est que tous soient sauvés, tous puissent devenir co-héritiers, puissent crier à toi comme Abba Père. Seigneur, nous te prions vraiment que le monde sache en voyant l'Église qui s'aime que tu existes, que tu es vivant et que tu aimes les êtres humains. Donc, d'être un bon exemple, d'être un bon parfum que l'Église, Seigneur, puisse se sanctifier davantage. Merci, Seigneur, au milieu d'une génération perverse, que nous puissions vivre comme des flambeaux dans un monde de ténèbres. Et tu viens dans cette ère que tu as vu il y a 2000 ans. Tu as éclairé le monde, même si on t'a rejeté, et tu reviendras. Alors, nous savons que beaucoup seront à toi, Seigneur, même des. Beaucoup de Juifs reviendront à toi, et beaucoup de Juifs aujourd'hui déjà croient en toi. Et reconnaîtront celui qui soit texté comme tu dis à ta vie. Merci, Seigneur. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Manifeste-toi, merci, Jésus. Et nous sommes heureux parce qu'il y a la joie dans ta présence, il y a le chant dans ta présence, il y a la lumière dans ta présence. Et offre-toi celui qui désolation est faite. Alors nous te rendons grâce, Seigneur, de t'avoir révélé à nos cœurs, Seigneur, d'avoir béni nos âmes, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cette soirée où tu parles, Seigneur. Tu parles encore à ton peuple, Seigneur. Tu parles encore à ceux qui attendent ton retour parce que tu viens bientôt, Seigneur. Alors nous te disons merci pour ce moment de grâce. Nous te disons merci pour ce moment de paix. Nous te disons merci pour ce moment de joie. Nous te disons merci pour ce moment de relation et de partage avec toi. À toi la gloire, Seigneur. Oui, nous aimons le nom de Jésus-Christ, parce qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur au siècle des siècles. Amen. 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 J'ai conscience que c'est quelque chose de premier de pouvoir encore se rassembler une commence pour venir te louer, te glorifier, mais surtout pour recevoir et pour encore ces enseignements. Ces enseignements, je nous appelle, mais c'est nous sur le chemin de la gloire. Je te demande de venir d'une façon particulière, Seigneur, chacun d'entre nous ici, comment ce soit, que notre cœur soit disposé à recevoir ces enseignements. Et que nous puissions le garder, Seigneur, le méditer, et que ça devienne quelque chose de vrai dans notre place. Je te demande de venir pour serviteur, Seigneur, ou un être pour d'une manière particulière ce soir, Seigneur. Loin de ton esprit, Seigneur. Seigneur, sers-toi de nous. Donne-lui tout ce dont il a besoin, Seigneur, pour continuer encore sur le chemin de la vie. Bénis le grandement, bénis le grandement ce soir, pour nous tous ensemble. Amen.
Béni sois-tu, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être rassemblés, Seigneur, dans ta maison ce soir. Nous sommes montés, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu as encore bien des choses à nous dire, Père. C'est vrai, Seigneur, que tu nous aimes tels que nous sommes, mais tu ne veux pas nous laisser comme nous sommes. Tu veux nous instruire, tu veux nous faire grandir, tu veux que notre spiritualité prenne un essor différent que celle que nous avons déjà à l'heure actuelle, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, mais surtout un Dieu fidèle, un Dieu qui est à nos côtés à tout moment de notre vie. Sois béni pour cela, Père. Sois béni pour la grâce que tu nous témoignes, nous qui ne sommes vraiment rien devant toi, devant ta puissance, devant ta gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chaque fois qu'on rentre en contact avec toi, qu'on est connecté avec toi, nous avons plus facilement la possibilité de vivre dans ce monde. Dans ce monde où, effectivement, Seigneur, nous sommes à l'opposition de ce que toi, tu demandes dans ta parole. Que nous soyons aussi des bons disciples, Père. Que nous ne soyons pas à part, mais que nous ayons l'humilité d'aller vers les autres aussi et de leur faire comprendre parfois qu'ils se trompent, Seigneur. Avec ta sagesse, avec l'humilité qui est la tienne, Père. Rends-nous meilleurs, s'il te plaît, mon Dieu. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, parce que nous savons qu'il y a encore bien des choses à nous apprendre, Père. Oui, Seigneur, bénis ton serviteur, Seigneur, qui est venu, Seigneur, pour nous apporter vraiment cette bonne parole. Cette semence que tu veux déposer dans notre cœur, Papa. Mais nous sommes là aussi, Seigneur, pour prier pour ceux qui n'ont pas ce privilège, Père. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés dans ce monde, Seigneur. Nous ne devons pas les oublier dans nos prières, Père, parce que jour après jour, ils ne savent pas si le lendemain, ils auront le souffle de vie que toi, tu octroies, Père. C'est pour ça que nous voulons être une personne comme tu le demandes, Seigneur, dans nos prières. Afin que toute chose se fasse selon ta volonté, pas selon notre volonté, mais selon ta volonté. Merci Seigneur, béni sois-tu Père pour tout ce qui va se passer ce soir. Bénis mes frères et sœurs ici présents. Amen.
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 Bonsoir, frères et sœurs. Comme toujours, c'est une joie d'être avec vous. Un privilège aussi d'apporter la parole. Merci beaucoup de donner ce privilège. Et sans tarder, nous allons plonger dans le sujet ce soir. Le chapitre 5 de l'Apocalypse, je pense que nous allons lire aussi une partie du chapitre 6. Le chapitre 5 n'est pas très long et ce n'est pas très compliqué. C'est peut-être le chapitre le moins compliqué de tout le livre. Mais quand même des choses intéressantes à nous expliquer. Si vous vous rappelez la dernière fois, au début du chapitre 4, Jean est transporté dans l'esprit au ciel. Alors il voit des choses dans le ciel, et il voit tout ce qui se passe sur la terre, aussi du ciel. Pas comme s'il était dedans, mais comme s'il était au-dessus. Et ceci va être le cas pour quasiment tout le reste du livre de l'Apocalypse, certainement le chapitre 5. Alors, je commence à lire, Jean dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Un livre écrit en dedans et en dehors, c'est quand même un peu étrange. Oui, si on pense à un livre comme nous, on comprend livre. Mais un livre, au temps de la Bible, n'était pas un livre comme ça. C'était un rouleau. On écrivait sur des feuilles de parchemin, d'habitude des feuilles un peu plus petites que notre feuille A4 aujourd'hui, à peu près la même. Et puis, quand la feuille était remplie, les feuilles étaient remplies, on les a cousues l'une à l'autre pour en faire une longue, un rouleau. On roulait. Alors si le livre est écrit en dedans et en dehors, ça veut dire que les feuilles sont écrites des deux côtés. Comprenez? Quand vous le roulez, alors il y a l'écriture dedans, et en écriture dehors. C'est ça que ça veut dire. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est dans la main droite de Dieu, la main forte. Moi, je vous soyez beau. Donc, un livre rempli, quand c'est rempli, ça veut dire que c'est fini, on peut plus rien ajouter. Et puis, il nous a dit que ce livre est scellé de sept sceaux. Qu'est-ce que nous devons penser? Les personnes âgées parmi nous comme moi, on se rappelle des documents officiels, n'est-ce pas, où on les scellait avec un sceau. C'était de la cire rouge, n'est-ce pas, qu'on posait dessus et puis on mettait un tampon. Le notaire ou quelqu'un d'important mettait un tampon dessous. Et c'était fermé. Et c'était comme ça un acte, un document officiel, éventuellement testament, quelque chose comme ça. Et ce rouleau est scellé de sept sceaux. Sept, nous l'avons déjà vu, le chiffre de la perfection. Donc c'est complet, c'est fini, le livret est rempli, et maintenant c'est scellé de sept sceaux. Quand un document officiel est scellé, seulement là où les personnes autorisées peuvent briser le sceau pour l'ouvrir et puis pour le lire. Et ici, Jean dit, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Un ange. Il y a beaucoup d'anges dans le livre de l'Apocalypse. Et 26 de ces anges ne sont pas identifiés. On ne sait pas plus que ce sont des anges. Ici, c'est un de ces 26. Un ange non identifié demande qui est digne d'ouvrir le livre, qui est autorisé. S'il n'y a personne qui est digne, le livre reste fermé, reste scellé. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et Jean dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Qui est le lion de la tribu de Juda? Jésus. Ça ne nous étonne pas que lui soit digne, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dignes. Mais lui, il est digne. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Le lion est le roi des animaux. Quand Jacob bénit ses fils avant de mourir, il dit prophétiquement concernant son fils Judas, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Et puis il dit ceci, Judas est un jeune lion. Vous voyez, les symboles, ça ne commence pas en Apocalypse, ça commence au début de la Bible et tout au long de la Bible, ces mêmes symboles se retrouvent. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, il croit les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre, on dit ceci à Noël, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est aussi Jésus, ça. Et alors, Jean voit ce lion de la tribu de Judas. Et il est dit. Et alors, il vint. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et maintenant, nous allons voir ce qu'il y a là-dedans. Mais avant d'ouvrir le livre, Jean dit ceci, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Qui est cet agneau? Jésus n'est pas seulement le lion, il est aussi l'agneau. Et ici, nous voyons quelque chose qui a toujours donné un peu de confusion, et même quelque chose qui est pris par les non-croyants souvent, comme si c'est une contradiction. Comment est-ce qu'on peut, en même temps, est-ce qu'on peut être à la fois un lion et un agneau? Qu'est-ce qui se passe si vous mettez un lion à côté d'un agneau? Très vite, vous n'avez qu'un lion. Le plus gros. N'est-ce pas? Mais c'est ce même contraste qui a fait que les Juifs, quand Jésus est venu, ne l'ont pas reconnu comme Messie. Ils attendaient un lion, mais il est venu comme agneau. Ils attendaient quelqu'un de fort qui allait chasser les Romains et délivrer le peuple. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Après, il s'est laissé crucifier. Vous voyez la différence? Ici, nous avons ces mêmes pensées. Nous, chrétiens, nous comprenons les deux symboles. Jésus est à la fois un lion fort, quelqu'un qui délivre, mais à la fois, il est l'agneau doux, plein de grâce. Et pour nous, il n'y a aucune contradiction. Il est venu comme agneau la première fois. Quand il reviendra comme lion, n'est-ce pas? Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Parce que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'or, que vous aviez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tâche. Qu'est-ce que ça veut dire un agneau sans défaut et sans tâche? Vous savez que sur l'autel des holocaustes, au temple de Jérusalem, on offrait des animaux. L'holocauste préféré était l'agneau. Et tous les matins, quand le temple s'ouvrait, juste après l'aube, les marchands d'agneaux et de pigeons, etc., s'amenaient dans le temple avec tous leurs animaux qu'ils vendaient à un prix beaucoup plus élevé que le prix du marché. Vous vous rappelez dans le ministère de Jésus, au début de son ministère et à la fin de son ministère, il les a chassés deux fois. Pas parce qu'il était contre le système. Non, il n'était pas contre le système. Mais à cause de la malhonnêteté. Et non seulement qu'il y avait la malhonnêteté dans le prix des animaux, mais la loi dit clairement qu'un animal qui n'est pas 100% parfait ne peut pas être sacrifié. N'est-ce pas? Si l'animal a une tache, si l'agneau a une patte qui est un peu moins longue que les autres, ça ne peut pas être sacrifié. Est-ce que tous ces animaux, et parfois il y avait des milliers par jour, étaient tous 100% parfaits? C'était au prêtre, tous les matins, quand les vendeurs d'animaux arrivaient. Chaque animal devait passer le contrôle technique. Et si vous apportez un animal et le contrôle technique ne lui donne pas une carte verte, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas le vendre. Et si vous passez de l'argent en dessous du comptoir au prêtre, il va vous donner une carte verte quand même, n'est-ce pas? Mais Dieu n'accepte pas le sacrifice d'un animal qui n'est pas 100% parfait. Et vous êtes d'accord avec moi que si Jésus n'avait pas été 100% sans péché, nous n'aurions aucune chance de salut. N'est-ce pas? Vous rappelez, à un moment donné, Jésus demande à la foule qui l'entoure, qui de vous me convainc de péché? Personne ne lève la voix. Le diable lui-même scrute Jésus minutieusement tout le long de son ministère. Si Satan même avait trouvé quelque chose d'imparfait à Jésus, il serait précipité au ciel pour dire il n'est pas digne. Mais même le diable, par la voix de Ponce Pilate, a dû dire, je ne trouve rien en lui. Vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas dans l'Apocalypse, mais c'est dans l'arrière-plan. Le lion est parfait, et l'agneau parfait. Et le sang qui nous a rachetés est le sang d'un animal qui a une carte verte, qui n'a pas été obtenu frauduleusement, mais qui était digne de la carte verte. Alléluia. Cet agneau revient plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons le retrouver plus loin. Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. L'agneau qui est au milieu du trône les vêtera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je regarde et voici. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes qui, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. » Heureux, ceux qui sont appelés, pas au fait du lion, mais au fait, au festin de noces de l'agneau. On commentera cela quand on arrivera au chapitre 19. Bien, je te montrerai l'épouse. Nous verrons bien que ça veut dire l'église, pas la femme du lion, la femme de l'homme. Et dans la Nouvelle Jérusalem, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les noms des 12 apôtres, pas du lion, mais de l'agneau. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront. Si j'ai lu ces versets, c'est pas pour les commenter maintenant, on va les commenter quand on y arrive, mais c'est pour vous montrer, pour souligner que nous sommes sauvés, pas par le lion, mais par l'agneau. N'est-ce pas? Si Jésus était venu la première fois, comme les Juifs l'attendaient, comme lion, s'il aurait chassé les Romains, etc., et délivré le peuple juif de leur oppression, ça aurait été très bien pour le peuple juif. Mais il n'aurait pas eu de salut éternel. Il fallait que Jésus vienne comme agneau. Et c'est sa mort propitiatoire sur le croix de Calvaire comme agneau qui est à la base de notre salut. Et chacun de ces versets que j'ai lus maintenant, chacun de ces versets est en rapport avec le salut des âmes. Quand nous lisons du lion dans l'Apocalypse, il ne s'agit pas du salut des âmes. Il s'agit de victoire et de délivrance. Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ces sept yeux, les sept esprits, ça nous avons déjà vu. Je ne vais pas répéter ça ce soir. Mais il y a trois mots dans ce verset qui sont ensemble les trois mots clés de l'évangile. Immolé, racheté et nous. N'est-ce pas? Jésus est l'agneau, immolé, qui nous a acheté ou racheté de Satan, et qui a fait de nous un royaume. Un royaume. Au verset 10, on va d'abord lire ce que dit l'apôtre Pierre là-dessus. Nous sommes un royaume, frères et sœurs, pas comme on entend parfois dire des rois. Il y a une différence. Nous régnerons avec le Seigneur, mais il n'y a qu'un seul roi. Nous ne sommes pas des rois et nous ne serons pas des rois. Nous régnerons avec le roi. On entend parfois dire, les chrétiens dire, je suis un roi, c'est pas biblique. Il n'y a qu'un seul roi. Le roi des âges, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus lui-même. Mais vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ, et puis il dit, tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous ne sommes pas rois. Nous faisons partie d'un royaume. Nous sommes sacrificateurs. Heureusement qu'on ne doit pas littéralement offrir des holocaustes, n'est-ce pas? Notre frère n'aimerait pas que vous apportiez tous les dimanches des agneaux pour tuer ici devant dans la salle, n'est-ce pas? Merci Seigneur de ne pas demander ça. Les sacrifices que nous offrons sont des sacrifices de prière, de louange. En somme, les agneaux, c'était ça aussi. C'était aussi prière et louange, exprimé d'une autre façon. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront. Vous qui êtes francophones, régneront, c'est quel temps du verbe ça? Futur. Donc nous ne régnons pas maintenant. Nous régnerons aujourd'hui, demain. D'accord? C'est-à-dire après la grande tribulation. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe. C'est bien pour les musiciens. Il y a des instruments au ciel. Guitare, je sais pas, mais harpe, oui. Prenez des leçons d'harpe. Et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Je vais commenter cela en détail quand on arrivera au chapitre 8. Hein? Vous avez ça encore à crédit. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça, c'est plus facile à l'expliquer dans le contexte du chapitre 8 qu'ici où ce n'est mentionné qu'en passant. Mais où je veux arriver, c'est le verset 9. Il chantait un cantique nouveau. C'est pas bon, ça?
Amen.
Ça dépend si vous aimez des cantiques nouveaux. Je suis allé, il y a quelques années, dans une église, petite ville en Hollande, et on m'avait demandé non seulement de prêcher, mais aussi de conduire des chants. J'arrive dans cette église, une église très traditionnaliste, mais du Nord. J'aime bien l'orgue. L'organiste était presque aussi vieille que l'orgue. Et on m'avait déjà dit que on ne chantait pas de chants modernes. Il fallait prendre recueil qui est daté de, aussi, très vieux. J'ai choisi les cantiques. Et le premier cantique, ça allait très bien. Le deuxième cantique, j'annonçais le numéro du chant. Et, tout le monde prend son recueil. On n'avait pas de projecteur. À l'époque, tout le monde prend son recueil et ouvre un chant numéro 21. Et je voyais sur le visage qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne savais pas quoi. Un beau cantique que j'aimais beaucoup, qui était tout à fait dans le thème du message que j'allais apporter, mais je voyais sur le visage qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, la dame qui joue l'or, qui avait son dos à moi, elle se retourne et elle me fait. Elle avait ouvert son musique. Alors, vous êtes une église où il est permis de rire, mais de rire, mais dans des églises traditionnelles. Ça. Alors, je ne savais pas quoi faire. Alors, heureusement qu'il y avait une dame dans la salle qui a vu que je ne comprenais pas. Et elle m'a dit, frère, nous ne connaissons pas ce numéro-là. Je dis, ah, c'est dommage. Je dis, parce que c'est vraiment beau chant, eh bien, je vais vous la chanter, le premier strophe, et puis vous suivez, vous apprendrez un nouveau chant. Et l'organiste a dit. Et la dame dans la salle a dit, nous n'aimons pas des nouveaux chants. J'ai chanté un solo. Je n'ai pas osé le dire dans l'église. Sur le chemin de retour, j'ai dit à mon épouse, j'espère pour ces gens-là qu'ils vont pas aller au ciel. Parce qu'ils vont pas aimer le ciel. Là, des nouveaux chants. N'est-ce pas? Vous me suivez, hein? Ce que je trouve dommage, et ce n'est pas la critique de la parole de Dieu, c'est que Jean n'a écrit que les paroles, pas la musique. Sinon, on apprendrait avant, n'est-ce pas? Comme ça, quand on arriverait au ciel, on pourrait le chanter comme des experts. Mais on n'a que des paroles. Mais les paroles sont déjà jolies. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. C'est pas bon ça? Vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse, il y a plusieurs chants. Et chaque fois, ces chants parlent toujours de Jésus. Les anciens recueils des chants, la plupart des chants, parlaient de Jésus et de Dieu. Parfois nos chants modernes ont une très jolie mélodie, mais on trouve un peu trop souvent, à mon avis, le mot je, ou nous. Parfois, il semble que le chant concerne nous. Alors que si nous chantons l'adoration de Dieu, il me semble que ça devrait concerner plutôt Dieu. Et si on tout ça, en tout cas, c'est comme ça. Il n'y a aucun chant qui tourne autour de je ou de nous. Tous les chants sont leur sujet, c'est le Seigneur. Il a entendu les paroles, le chant. Et il regarde autour de lui. Et maintenant, il voit la chorale. Vous aimez des chorales? Pas beaucoup. Vous n'allez pas être content au ciel. Maintenant, changez de goût. Parce qu'au ciel, non seulement qu'il y a des chorales, mais vous risquez d'en faire partie. Et si vous dites, oui, mais je chante faux, pas de problème. Là-haut, personne ne chante faux. N'est-ce pas? On a tous des belles voix. Meilleur que n'importe quelle voix qu'on a jamais entendu ici. Et regarde autour de lui, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Nous avons déjà vu ces gens-là représentent Israël et l'Église. Donc il y a des anges, il y a Israël, il y a l'Église. Devant le trône, chorale, énorme. Le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a immolé, qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il y a un seul mot là, donc, hein, sept fois. N'est-ce pas? Formidable. Je vais pas le prêcher. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. À toi la gloire, ô ressuscité.
Amen.
N'est-ce pas? Nos chants que nous chantons s'inspirent sur les chants bibliques et les chants du ciel. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Des myriades et des milliers d'anges, c'est combien ça? Myriades, on dit que ça devrait être 10 000. Quand la Bible dit myriades et myriades, ça veut dire dans notre formule mathématique, myriades fois myriades, myriades. Donc, 10 000 fois 10 000. Qui est fort en mathématiques? C'est déjà son million. Et ça, c'est avant la multitude qui ne peut être comptée. Donc la chorale va être énorme au ciel. Les gens entendent ce chant, cette chanson des lâchés. D'abord, la chanson des lâchés. Et puis, la chanson des anges. Et tout ceci, avant de passer au chapitre 6, tout ceci nous montre quelque chose. Que nous savions déjà, et que nous oublions. C'est qu'au ciel, les lâchés occupent une place plus élevée que les anges. Pierre dit, concernant ces anges, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent bien le regard. Nous sommes déjà privilégiés sur la terre. Nous le serons aussi au ciel. Ce chapitre est magnifique, n'est-ce pas? Le texte des cantiques que nous allons chanter éternellement dans et avec cette chorale et avec des beaux instruments. Alléluia. Vous êtes d'accord, hein? Amen. Passons alors au chapitre 6. Si vous êtes content d'être venu pour le chapitre 5, vous peut-être mieux rentrer à la maison maintenant. Parce que le chapitre 6, on va commencer vraiment la grande tribulation. Nous l'avons déjà vu au chapitre 4 à grande distance. Mais maintenant, pas nous, mais ceux qui sont sur la terre, vont être les deux pieds jusqu'à la tête dedans. La grande tribulation comprend, entre autres, trois séries de jugements. Trois séries de sept, donc 21 jugements au total, symbolisés par respectivement sept sceaux, sept trompettes et sept coupes. Nous avons déjà vu ce livre de sept sceaux au début du chapitre 5, qui est digne de l'ouvrir l'agneau, Jésus lui-même. Et le premier verset du chapitre 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. L'ouverture de chaque sceau, chacun de ces sept sceaux, annonce une phase suivante ou successive de la grande tribulation. Nous allons regarder ces sept jugements, ce que ça représente en plus grand détail. Les sept sceaux occupent le chapitre 6 et le début du chapitre 8. Chapitre 7 est en quelque sorte une parenthèse. Il y a deux, trois parenthèses dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi parenthèse? Parce que, j'ai expliqué la première soirée, le livre de l'Apocalypse, c'est chronologique. Hein? On commence avec le premier chapitre, on termine avec le 22e, et on a toute une chronologie. Mais il y a certaines choses où, en même temps, deux choses se passent. Vous me suivez? En parallèle. Et à ce moment-là, Jean prend une parenthèse pour expliquer quelque chose qui se passe en même temps. Donc nous avons l'ouverture des sceaux au chapitre 6 et 8, mais en même temps se passe ce qui est décrit au chapitre 7. Ça, ce sera pour la fois prochaine ou même la fois après. On verra jusqu'où on arrive ce soir. Jésus ouvre les sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Petit mot comme de nouveau. Jean n'a pas entendu la tonnerre, il a entendu une voix comme de la tonnerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il a crié très fort, n'est-ce pas? Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vaincre, et pour vaincre. Ah! Qui est le cavalier sur le cheval blanc? Si vous lisez les commentaires, les livres sur l'Apocalypse, vous avez toute une discussion sur l'identité de ce cavalier. Le fait que son cheval soit blanc convainc certains à dire que ça va être Jésus. S'il a un cheval blanc, ça doit être Jésus. C'est vrai ça? Le roi Hérode, le grand, il avait aussi un cheval blanc. Vous connaissez le roi Hérode, hein? C'était pas un petit lapin non plus, lui, hein. C'est lui qui a décrété la mort des bébés à Bethléem dans l'espoir de pouvoir tuer Jésus. Ça a raté, heureusement. C'est lui qui a construit le temple splendide de Jérusalem. Un temple qui était, à l'époque, le plus grand bâtiment dans tout le monde. Même plus grand et plus beau que les plus grands et plus beaux temples à Rome. Hérode voulait faire voir qu'il était Hérode le Grand. La Bible ne le dit pas, mais l'histoire séculaire dit que quand le jour de dédicace du temple arrive, Hérode s'amène avec tous ses invités, tous ses convoqués, tous les gens qui doivent venir admirer et louer sa grandeur, il arrive en plein uniforme sur un cheval blanc devant la porte du temple. Et les prêtres disent, halt, tu ne peux pas entrer, tu n'es pas juif. Vous imaginez l'insulte? Mais il était sur un cheval blanc. Le fait d'être sur un cheval blanc ne prouve pas qu'il s'agit de Jésus. Et moi je voudrais vous dire ce soir, à mon avis, à mon avis, ceci ne peut pas s'agir du Seigneur Jésus. Je vous expliquerai pourquoi. Il est vrai que Jésus est souvent associé avec la couleur blanche dans la Bible, et surtout dans le livre de l'Apocalypse. Il a des cheveux blancs. Nous avons déjà lu ça. Il a des vêtements blancs. Il arrive sur un nuage blanc. Il a un trône blanc. mais il n'a pas de cheval d'or. Du moins pas ce cheval-ci. D'autres croient qu'il ne s'agit pas de Jésus lui-même en personne, mais que ce cheval blanc représente l'Église qui va comme vainqueur et pour vaincre. Il est vrai qu'à la fin de l'Apocalypse, chapitre 19, Jésus monte le cheval blanc. Et ça, c'est lui. J'en dis, je vis le ciel ouvert, voici paru un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Ça, c'est Jésus. N'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que chaque fois que nous rencontrons un cheval blanc, qu'automatiquement celui qui est assis dessus doit être Jésus. Parce que Jésus n'est pas le seul à monter un cheval blanc. Trois versets plus loin, les armées qui sont dans le ciel. Ça veut dire, entre autres, nous, le suivaient sur des chevaux blancs. Vous savez monter un cheval? Ah, il faut que je compte les missions. Je n'ai pas mon permis de conduire avec mon ciel. Avec des chevaux. Non, vous avez compris. Ça ne va pas nécessairement s'agir de Jésus. Si ce n'est pas Jésus, qui? Nous sommes au début de la grande tribulation. Qui tient les ficelles, qui tire les ficelles, c'est pas Jésus qui va amener, qui est la cause, disons, de toutes ces détresses qui vont se déferler sur le monde. Moi, je voudrais vous suggérer qu'il ne s'agit pas ici de Jésus, le Fils de Dieu, et ses armées célestes, mais qu'il s'agit de l'Antichrist, qui n'est pas le Fils de Dieu, mais qui est en quelque sorte le Fils du diable, qui encore une fois, comme il l'a fait tout au long de la Bible, est tellement impressionné par Dieu qu'il fait tout ce qu'il peut pour l'imiter. N'est-ce pas? Combien de fois dans la parole de Dieu est-ce que le diable n'essaie pas d'imiter Jésus? Pourquoi? Pour séduire le monde. Je regarde et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et ça convainc qu'il ne s'agit pas de Jésus. La description de ce cavalier sur un cheval blanc ne correspond point aux descriptions de Jésus dans la parole de Dieu, ni tel que nous l'avons déjà vu au début de l'Apocalypse, ni tel que nous le voyons autre part dans la Bible. Cavalier ici, il a un arc. Vous voyez ce que c'est, arc avec des flèches? Quel est le seul arme associé à Jésus? C'est pas un arc et des flèches, l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous l'avons lu au premier chapitre de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et Paul écrit aux Éphésiens, l'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Car, Hébreu 4, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et noël. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, ce cavalier a un arc, pas une épée. Deuxièmement, il porte une couronne. Jésus aussi. Malheureusement, en français, il n'y a qu'un mot pour couronne. Combien qu'il y a deux. Et la couronne portée par ce cavalier est une couronne de vainqueur. Tandis que la couronne que Jésus porte en grec n'est pas la couronne du vainqueur en grec Stéphanos, mais en français notre mot diadème, une couronne de roi. C'est pas la même chose. Une couronne de vainqueur, vous le recevrez, on le reçoit quand on est vaincu. Et il ne s'agit pas seulement d'un général qui a vaincu dans une victoire. C'était plutôt le Stephanos, la couronne qu'on donnait à un vainqueur dans les Jeux Olympiques. Hein? L'équipe de Gand, hier soir, a reçu, si vous voulez, un Stephanos, n'est-ce pas? Mais Jésus ne porte pas une couronne de vainqueur. Lui, il porte un diadème, notre couronne. Et ce diadème, une couronne de roi, un vainqueur ne peut pas le porter, c'est seulement le roi. Donc, c'est pas la même couronne. Nous lisons de Jésus sur sa tête, étaient plusieurs diadèmes. Et puis, le cavalier partit en vainqueur et pour vaincre. Jésus ne doit plus partir en vainqueur et pour vaincre, il a déjà vaincu. N'est-ce pas? Ce ne serait pas autant futur, alors ce serait autant passé. Parce que Jésus a vaincu il y a déjà 2000 ans à Golgotha. Il est déjà le vainqueur. Il ne doit pas le devenir. Vous êtes d'accord? Il a déjà vaincu. Je cite un des psaumes écrit 900 ans avant Jésus. Un des psaumes messianiques, ça veut dire un psaume messianique, il y en a plusieurs, c'est prophétique concernant le Messie qui, à ce moment-là, doit encore venir. Je cite ce psaume. Tu es le plus beau des fils des hommes, de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Mais ça, c'est écrit 900 ans avant que Jésus ne vienne. Donc c'est normal que ce soit futur. Aujourd'hui, on ne pourrait pas l'écrire au futur, il faudrait l'écrire au passé. Vous me suivez? Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples dans la chambre haute? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est dans quel temps le verbe là? Passé, hein? J'ai vaincu, ça veut dire c'est déjà fini. C'est déjà fait, n'est-ce pas? C'est d'accord? Pas je vaincrai, pas je suis en train de vaincre, mais j'ai vaincu. Alors ce n'est pas Jésus qui partait en vainqueur et pour vaincre. Il ne s'agit pas de Christ, il s'agit de l'Antichrist. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Le prophète Esaïe parle de cela et dit ceci. Parlons du diable. Le voilà. Tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Il est vrai que Satan est vainqueur des nations. Pas du péché. Pas de la mort. Ça, c'est Jésus. Il s'agit ici de l'Antichrist qui se révélera immédiatement après l'enlèvement de l'Église au commencement de la grande tribulation. L'Antichrist, dans ce cas-là, n'imitera pas Jésus lors de sa première venue. Jésus, lors de sa première venue, est venu en bébé. L'Antichrist ne vient pas en bébé. Il vient déjà adulte. Cela va donc quand même un tout petit peu à réfléchir. Nous croyons que nous sommes maintenant dans la fin des temps, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais personnellement, je crois que tous les gens vont venir ce soir. Je l'espère, n'est-ce pas? Ça vous arrange? Oui, voilà. Si Jésus revient ce soir, nous partons. N'est-ce pas? Dans les airs, à sa rencontre, d'accord? Demain commence le règne de l'Antichrist. Il sera déjà adulte. Dans ce cas-là, il vit déjà sur ce monde depuis des années. Il ne faut pas exclure cette possibilité. Au fil des années, je parlerai de cela en plus de détails, quand on va avoir une description beaucoup plus détaillée, au fil des années, au fil des siècles, il y a eu beaucoup de candidats pour l'Antichrist, n'est-ce pas? Le roi Hérode, certains disent qu'il est l'Antichrist. Je ne vais pas citer toutes les possibilités au fil des siècles. On a parlé d'Adolf Hitler, entre autres. Il est vrai que des gens comme ça ont été, si vous voulez, des apéritifs, hein. Déjà, un petit goût d'avant, mais rien comparé à la réalité. Comment, s'il est parmi nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on le reconnaîtrait? Si je dis parmi nous, je ne veux pas dire ici dans l'église. Ça, je veux dire, dans le monde. Comment est-ce qu'on le reconnaîtrait? S'il va être blanc, noir, asiatique? Est-ce qu'il aura un arrière-plan chrétien, juif, musulman, bouddhiste, hindou? Au temps de la Bible, Paul dit qu'il n'était pas encore manifesté. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'adresse au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est l'Antichrist. Mais au temps où Paul écrit cela, 45, 50 ans avant Jésus, après Jésus-Christ, il n'a pas encore révélé. Il n'a pas encore là. On dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore révélé? Parce que pour le moment, il est retenu. Vous savez. Maintenant, vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? Le Saint-Esprit de Dieu. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Dieu a un plan, n'est-ce pas? Un plan et un calendrier. Dans le calendrier, nous sommes déjà, ça c'est clair, au mois de décembre, n'est-ce pas? Le temps est déjà presque écoulé. On pourrait même dire, on est déjà 5 minutes avant minuit. Dieu a un temps pour tout. Et il a donné un temps, une date, une heure, où l'Antichrist peut se révéler. Et jusqu'à ce que ce moment arrive, on ne saura pas qui c'est. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Il est déjà occupé. Derrière les coulisses, il faut seulement que celui qui le retient, le Saint-Esprit, ait disparu. Quand l'Église est enlevée, il n'y aurait plus de pain. Et alors, paraîtra, on le verra, sera révélé. Alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, ça c'est à la fin de la grande tribulation, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Comme je vous ai dit, il y a eu déjà pas mal de candidats. On disait Judas Iscariote, on disait Nimrod. Il y a Nebuchadnezzar, beaucoup. Les papes de Rome, Napoléon. Mais ils étaient des avant-goûts. Ils n'étaient pas l'Antichrist lui-même. Les différents noms les descriptions de l'Antichrist dans la parole de Dieu nous permettent quand même de former une impression de sa personne et de son caractère. Vous savez, dans la parole de Dieu, Jésus, il a plus de 100 noms. Plus de 100 noms et de titres. L'Antichrist a une dizaine de noms dans la Bible. D'abord, l'Antichrist. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui nient le Père et le Fils. Deuxième nom ou titre, il s'appelle l'homme du péché. L'homme du péché. Pas l'homme qui pêche, mais l'homme du péché. L'origine. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Il s'appelle aussi, dans le même verset, le Fils de la perdition, celui qui amène le monde et les habitants du monde qui ne se convertissent pas à Jésus, qui les amène à la perdition. Il s'appelle l'impie, le verset que nous avons déjà lu. Plus tard, dans l'Apocalypse, on l'identifiera comme la bête. Quand les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. L'abîme, je l'expliquerai aussi en détail quand nous arrivons au chapitre 8. Et il s'appelle la bête 30 fois dans le livre de l'Apocalypse. En Daniel, il s'appelle la petite corne. Il faudrait une série d'études sur le livre de Daniel pour expliquer tout le détail de cela. Je me limiterai à lire le passage en question. Je regardais, c'est Daniel maintenant qui parle. Prophète Daniel, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et coulait au pied ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne, sortie du milieu d'elle. Les trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle écoula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera comme le chef des chefs. Mais il sera brisé, son effort d'aucun main. La petite corne s'agit de l'antichrist. Encore en Daniel, il s'appelle le dévastateur. Tous ces titres expliquent son ministère, n'est-ce pas? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Au chapitre 9, il y a question de sauterelles. Et les sauterelles avaient sur elles comme roi l'ange de la Bible, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Tous les deux, ces deux mots veulent dire destruction. Puis l'apôtre, le prophète Ézéchiel, il voit la même chose et lui, il l'appelle Gog. Gog. Écrit, toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Je t'amènerai sur les montagnes d'Israël, j'abattrai ton arc de ta main gauche. Je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et tes troupes. Les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes. Et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Nous verrons que cela explique absolument en détail et correctement la bataille de l'Armageddon. Exactement ça. Encore une fois, Daniel, il l'appelle le roi du septentrion. Ça nous aide à quand même l'identifier un petit peu. Le roi du septentrion reviendra. Il rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, c'est encore une fois l'Armageddon. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée de grandes richesses. Le roi du septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses Ils ont parlé des villes fortes, les troupes du midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays. C'est quel ça, le plus beau des pays? Non, c'est pas l'Arabie. C'est même pas l'État. Le plus beau des pays, c'est l'Islam. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, finalement Jérusalem. Il chancellera. Il tombera. On ne trouvera plus. Qu'est-ce que tous ces versets nous appellent? Que l'Antichrist sera le dernier grand président du monde. Le gouvernement mondial, il y a déjà des voix qui demandent ça dans notre terre. Et que toute la terre va mettre, va se soumettre à lui. Le président mondial, peut-être des Nations Unies. Je ne sais pas pourquoi on les appelle des Nations Unies, ce sont plutôt des Nations Désunies. Mais en dessous de lui, il y aurait tellement de terreur. Il aura tout. D'où viendra-t-il? Si je peux vous mettre un tout petit peu à l'aise, personnellement, je suis convaincu que l'Antichrist n'est pas un wallon. Mais même pas un Américain ni un Russe. Nous l'avons déjà lu. De quelle région il vient? Le roi du Septentrion. Pour nous, le Septentrion, c'est où? Si vous êtes wallon, c'est en Perse. Non? Mais, non? Prendre la carte de la Belgique. Nous sommes dans le Nord, vous êtes au Sud. Hein? Nous sommes. Mais, pour un juif, Bois de Villers, même pas en Perse, n'est pas le centre du monde. Pour un juif, le centre du monde, c'est Jérusalem. Et pour la Bible, les directions de, comment ça se dit, du sol, nord, sud, est, ouest, ce n'est pas vis-à-vis de la Belgique, c'est vis-à-vis de Jérusalem. Quand vous allez au nord de Jérusalem, vous arrivez où? Syrie. N'est-ce pas? Syrie, Liban. Du temps de la Bible, vous savez que les pays dans la Bible, toutes les frontières au fil des années ont été très élastiques, n'est-ce pas? Syrie, Liban, c'était un pays, du temps de la Bible. Deux parties du même pays. Et du temps de la Bible, les rois du Septentrion étaient les rois de la dynastie Séleucide. Quand, 3 siècles avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand a vaincu tout le monde, hein, vous connaissez Alexandre le Grand, il est mort à l'âge de 32 ans, et il n'avait qu'un tout petit garçon, 5 ans, trop jeune pour régner sur l'Empire. Pas grave. 4 de ses généraux, les généraux d'Alexandre, ont dit, nous allons régner sur l'Empire jusqu'à ce que le petit soit grand assez. Vous comprenez bien qu'on n'a plus rien entendu du petit. Hein. Et les 4 généraux, ils ont divisé l'Empire entre eux. Et une partie de l'Empire, c'est-à-dire Syrie, Liban, aujourd'hui ce qu'on appelle Irak, c'était le royaume du Nord, le Septentrion. Et c'était le général Séleucos, qui s'est vite couronné roi Séleucos, le premier. Son fils l'a succédé, Séleucos II, et ainsi de suite. Donc une dynastie qu'on appelle la dynastie des Séleucides. Les descendants de ce général de l'armée d'Alexandre le Grand. Et ces rois, où est-ce qu'ils régnaient, où était leur capitale? Dama. Dama, qui aujourd'hui encore, toujours, est la capitale de la Syrie, et qui est au nord de Jérusalem. En plus, s'il vient du nord, est-ce qu'il sera arabe? Les Syriens sont des arabes. Vous connaissez plus ou moins aussi, certains sont chrétiens. Il y a beaucoup de raisons à croire que l'Antichrist, et ceci peut être étonnant, mais je vais vous l'expliquer, que l'Antichrist sera juif, ou qu'il aura au moins des origines juives. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons lu dans le livre de Daniel, chapitre 9, il va signer un traité d'association et de paix avec Israël. Israël, dans le temps de la fin où nous vivons maintenant, n'est pas tellement intéressé à signer des traités avec les Arabes. Il n'y a pas trop d'amour entre les Juifs et les Arabes, n'est-ce pas? Encore moins de confiance. Ils n'ont pas confiance l'un dans l'autre. Les Juifs vont recevoir de l'Antichrist la permission de reconstruire le temple là où la fameuse mosquée de Omar se trouve maintenant. C'est pas les Arabes qui vont leur donner cette permission. Les Juifs le donneraient. Il y a d'ailleurs une légende juive, et je souligne que c'est une légende, pas un texte biblique, mais une légende très ancienne, qui dit que l'Antichrist viendra de la tribu de Dan. Si vous regardez la carte de l'Israël dans l'Ancien Testament, divisée entre les 12 tribus, vous allez voir que la tribu de Dan occupe le pays tout au nord, la frontière du Liban et de la Syrie. Au début, pas, ils étaient au milieu. Le territoire était trop petit, ils n'arrivaient pas à vaincre les Cananéens qui occupaient ces montagnes-là. Ils ont pris le territoire frontalier tout à fait au nord, tribu de Dan. Et ils étaient reconnus, réputés, être la tribu le plus idolâtre de toutes les tribus d'Israël. Les Juifs ont signé un traité avec l'Antichrist au milieu de la Grande Tribulation. La moitié, comme nous l'avons lu, verset 27 de Daniel 9, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ce n'est pas une semaine de 7 jours, c'est une semaine de 7 années. L'hébreu n'a pas de mot pour semaine. Le mot semaine n'existe pas en hébreu. Si un juif, même du temps moderne, veut dire une semaine, il dit 7. Il dit 7, et vous n'avez qu'à comprendre que ça veut dire 7 jours. Mais 7 peut aussi être 7 années. Et ici, il s'agit d'années. Si vous lisez le texte dans son contexte, je n'ai pas le temps de lire tout le chapitre maintenant, mais vous allez voir qu'il s'agit d'années et pas de jours. Durant la moitié de la semaine, donc après 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice de l'enfant. Vous ne pouvez pas faire cesser quelque chose qui n'existe pas. Et pour que le sacrifice et l'offrande existent, il faut que le temple existe de nouveau. Depuis l'an 70, quand les Romains ont détruit le temple à Jérusalem, les Juifs n'ont plus de sacrifice et d'offrande. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice et d'offrande. Mais quand le temple sera reconstruit, les holocaustes recommenceront. Mais à la moitié de la grande tribulation, l'Antichrist déchirera le traité. Il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. La bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçus une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nombre. vous voulez bien savoir ce que c'est ça, hein? Faut revenir quand on verra ce chapitre 13. Pas difficile à comprendre. Plus difficile à calculer. Pas difficile à comprendre. Vous expliquerez quand on verra cela. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est pas les saints de l'Église, parce que les saints de l'Église sont déjà partis. Ce sont les saints juifs. Et le roi seul fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Mais il ne recevra pas sa puissance de Dieu, il recevra sa puissance du diable même. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête, ils adorèrent la bête, en disant qui est semblable à la bête et que qui peut combattre contre elle. Paul, l'apôtre Paul nous met en garde que personne ne vous séduise. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Attention, dans le monde dans lequel nous vivons, même dans nos églises parfois, il y a des gens qui viennent, soi-disant, avec des signes. Et des signes qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu, qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Faisons très attention, frères et sœurs. Il viendra avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'Antichrist ne vient pas dans l'image de Dieu. Jésus vient dans l'image de Dieu. Il dit, celui qui m'a vu moi m'a vu Dieu, a vu Dieu. Mais l'Antichrist ne vient pas dans l'image de Dieu, il vient dans l'image du diable. Tel père, tel fils, nous sommes. Jésus, par contre, est le reflet du Père. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Satan sait ça. Vous savez, il a lu la parole de Dieu, Satan. Je crois qu'il la connaît même peut-être mieux que nous. La différence, c'est qu'il la connaît, mais il ne croit pas. C'est ça la différence, n'est-ce pas? On peut lire la Bible pour critiquer. Il y a beaucoup qui le font, malheureusement même dans l'Église. Mais depuis la création, Satan ne cesse pas d'essayer de prendre la place de Dieu, n'est-ce pas? Et bien qu'il est difficile de l'admettre, il sait quand même que Dieu le surpasse en tous les égards. Alors il essaye d'imiter Dieu. Vous avez remarqué ça? Satan est très peu inventeur, mais il est très bon imitateur. Il a une chose que depuis la création, il n'a pas encore imité cependant. Il a déjà imité beaucoup de choses de Dieu. Il y a une chose qu'il n'a pas encore imité. La Trinité. La Sainte Trinité, ça il n'a pas encore imité. Mais pendant la grande tribulation, il va combler ce livre. J'en dis, je lui sortis de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. On regarderait les grenouilles au chapitre 16, mais j'avais déjà compris, on a le dragon, le diable lui-même, la bête, qui correspond, qui imite le fils, et le faux prophète, qui imite le Saint-Esprit. Trinité diabolique. L'Antichrist est donc la deuxième personne de cette Trinité satanique. Il reçoit la puissance du diable, tandis que Jésus reçoit sa puissance de Dieu lui-même. On terminera avec ça. Le premier saut est déjà ouvert. Je regardais, voici, parmi un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Tout au début de la grande tribulation, l'Antichrist se révèle. Merci de votre attention. Dieu voulant, on regardera les autres sons la fois prochaine. Amen. Merci.
Merci en tout cas pour cette parole, sur ma influence. Est-ce que nous avons du temps, un tout petit peu de temps pour poser des questions ou deux? Non, il y a un peu de temps. Je vais partir sur ce que je
veux. Je vais être à 9h.
Je vais être à 9h. Je vais partir à 9h. On peut avoir peut-être une question ou l'autre, puis. Nous allons pouvoir prier, voilà. Est-ce que, il y aurait quelques-uns qui ont besoin d'un éclaircissement par rapport à ce qui a été, c'était formidable, à la faction de l'Antichrist, parce que le peuple de Dieu sera, déjà le plus sera en position. Voilà. Donc, la question du frère, est-ce que, à l'apparition de l'Antéchrist, est-ce que l'Église sera encore sur terre? Vous avez déjà répondu.
Ça, c'est une question qui est formidablement intéressante. Et sur laquelle il est difficile de donner une réponse définitive. Je pense que c'est très possible. Si, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si l'Église est enlevée ce soir, il est déjà là. S'il va devenir le maître du monde déjà demain, c'est déjà un grand dans le monde. Hein. M'excuse de le dire, mais c'est pas le pasteur Scravatte. Hein. C'est déjà un grand dans le monde qui a déjà beaucoup de respect, beaucoup d'autorité, mais pas sur tout le monde. On va me demander, alors, est-ce que ça va être M. Poutine ou est-ce que ça va être M. Obama? Je vais pas dire ça. Je vais pas dire ça. Mais, ça va être confirmé très vite. Moi, je n'exclurai pas la possibilité que l'Église l'ait déjà vu. Est-ce que l'Église aurait déjà vu que c'est l'Antichrist? Non. Parce qu'il ne se révélera comme Antichrist que le lendemain de l'enlèvement de l'Église. Mais est-ce que l'Église l'aurait déjà vu en tant que personne? Je pense que c'est très possible. Est-ce que l'Église aurait soupçonné que cela pourrait être lui? Très possible. Certains diraient même très probable, et je n'oserais pas les contredire. Mais ils ne vont pas le voir comme Antichrist. Il n'aura pas encore son badge, n'est-ce pas? Parce que Paul dit, il ne sera révélé que après que l'Église soit enlevée. Mais je pense que nous ne pouvons pas exclure la possibilité que l'Église l'ait déjà vu et peut-être déjà soupçonné que c'est lui. Si c'est un juif, M. Netanyahu, je ne pense pas personnellement. Chacun a choisi son candidat.
Si on a une autre question, vous me posez. C'est vrai, c'est vraiment...